Donc j'espère que vous êtes bien assis. Voilà, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Et vraiment, merci au groupe Louange pour ce dernier chant. Il n'y avait pas meilleure introduction pour ma prédication. Comme ça, j'ai même trouvé un titre, parce que j'en avais pas. Seigneur, viens faire tout ce que tu veux faire dans notre Église. Alors, c'est vrai que quand j'ai choisi cette date pour la prédication, je me disais, ah oui, c'est les prédications de l'été. Puis finalement, là, en préparant, je me disais, mais en fait, c'est quand même un peu le culte de la rentrée. Donc, on va prendre un thème un peu tourné vers l'avenir, comme ça, quelque chose qui nous met en route. On va parler de l'Église, justement. Alors, vous le savez sûrement, peut-être pas si vous venez depuis pas très longtemps, mais notre Église, elle est un peu dans une belle saison, je dirais, de changement, de renouveau. On a travaillé sur changer un peu la manière dont on fonctionne, dont on s'organise, et puis on est dans un processus tous ensemble pour essayer un peu de discerner une vision, un peu savoir qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église de Villars pour les années à venir. Alors, je vous le dis en tant que responsable, c'est un processus qui est excitant, c'est chouette, mais ça pose quand même beaucoup de questions, des fois des questions très fondamentales, parce que ça nous ramène finalement à c'est quoi l'Église, quelle est ma part là-dedans, quelle est notre part là-dedans, c'est quoi notre place, qu'on doit faire. Et du coup, j'avais envie ce matin qu'on puisse se tourner vers la Bible, vers la parole de Dieu, pour aussi y trouver peut-être quelques guides, quelques jalons, quelques pistes aussi pour nous aider dans ce grand processus et dans cette grande question, mais quelle est ma place aussi dans l'Église ? Alors, je vous propose, tu peux mettre le premier slide, de commencer par la première question qui est fondamentale, qui est à qui elle appartient l'Église ? C'est à qui l'Église ? Hein ? Ça, c'est une question importante parce que la propriété, ça change pas mal de choses. Si je me pose la question pour cette chapelle et que je me dis à qui est cette chapelle, ben, ça ne va pas être tout à fait la même chose si la chapelle elle appartient à la ville de Lausanne, par exemple, ou si elle appartient à Nestlé, ou si peut-être elle appartenait à juste l'un d'entre vous. Ça change quelque chose et ça change aussi mon attitude dedans. Alors, l'Église, elle appartient à qui ? Alors, il y a plusieurs versets qui parlent de ça dans la Bible, mais j'en ai choisi un ce matin. C'est dans Matthieu chapitre 16. Alors, c'est un moment important, c'est un moment où Jésus commence à parler avec ses disciples et révéler qui il est vraiment. Et donc, à la question, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je pense que vous avez trouvé la réponse, je n'ai pas besoin de la mettre en gras. « Je bâtirai mon Église. » Donc l'Église, elle est à qui ? Elle est à Christ. Il n'a pas dit « Je bâtirai votre Église, je bâtirai l'Église de Pierre, de Paul. » Non, « Je bâtirai mon Église. » Et ça, c'est le premier fondement, et c'est quand même le plus important, parce que si c'est l'Église de Christ, ça veut dire que ce n'est pas la mienne, ça veut dire que ce n'est pas l'Église du pasteur, ça veut dire que ce n'est même pas l'Église ni du Conseil, ni de l'Assemblée Générale, c'est l'Église de Christ. Et ça, ça change tout. Et puis, ce qui est cool, c'est que, bonus, on a un autre élément de réponse qu'on n'attendait pas forcément sur l'Église. Il dit « Je bâtirai mon Église. » Et là, on se dit « Ah, il y a quelque chose d'autre, c'est que non seulement l'Église, elle est à Christ, mais en fait, c'est lui qui l'a construit. » Alors ça, c'est intéressant et ça peut aussi changer beaucoup de choses. Et je vous propose de regarder un autre passage, parce que si on tire que d'une phrase, on va dire... Ah, voilà. Et donc, dans Actes, ça raconte les débuts de l'Église, comment ça se passe, donc on peut vérifier comment ça se passait au début de l'Église, et on y lit comment ça se déroulait. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'Église. Donc là, on a la confirmation, il bâtit et il bâtit, et c'est lui qui ajoute des membres à son église. Alors, c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle ? Hein, je suis sûr qu'il y en a, ils lisent ce passage, ils sont soulagés, ils sont là, ah, c'est pas notre responsabilité, ça fait quand même de la pression en moins, c'est Christ qui ajoute. Puis je pense qu'il y en a d'autres, peut-être que ça inquiète ou que ça tend un peu, genre, attention là, oui, t'es bien gentil, mais attends, si c'est Christ qui choisit, ça veut dire que nous, on n'a pas de contrôle sur qui l'appelle, c'est un petit peu stressant ça. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire comment vous devez vous sentir vis-à-vis de ce verset, mais cette réalité, elle est fondamentale, c'est Dieu, c'est Christ lui-même qui ajoute les membres à son église et à sa famille. Et je pense que ça doit quand même vraiment nous influencer dans la manière dont on pense les choses et dans la manière dont on construit l'église. Alors, la question qui nous intéresse aussi, mais du coup, si c'est Christ qui ajoute, si c'est Christ qui appelle, il appelle qui ? Alors, réponse courte, tout le monde. Réponse un peu plus creusée, moi, pour me demander qu'est-ce que Christ appelle à rejoindre l'Église, j'applique une méthode hyper simple. Vous allez peut-être la trouver simpliste, c'est pas grave, c'est la mienne. Je me dis, si c'est Christ qui appelle, ben, j'ai qu'à regarder de son vivant qui est-ce que Christ appelait. Vers qui est-ce qu'il allait quand il marchait sur terre ? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il fasse différemment maintenant. Et pour savoir qui est-ce que Christ appelait quand il était sur terre, il suffit de lire les évangiles. Ça tombe bien, on en a quatre. Et si on lit les évangiles et qu'on essaye de faire une liste des gens que Jésus, avec lesquels il a interagi, je n'ai pas pu tout faire rentrer dans mon slide, il n'y en a que 19 là-dessus, et il y en a beaucoup plus. Okay ? Mais si on regarde un lépreux, un paralytique, un homme à la main desséchée, un démoniaque, une femme atteinte de perte de sang, un sourd muet, l'aveugle Bartimée, Zachée, la femme pécheresse, la femme samaritaine, l'édit lépreux, etc., on commence quand même assez facilement, sans avoir besoin de tirer les choses à quatre épingles, de se dire, bah, en fait, il y a quand même un point commun dans tous ces gens, c'est que c'est principalement les gens qui, à l'époque, étaient rejetés, étaient mis de côté, les gens que la société mettait de côté, ceux qu'on ne voulait pas voir, ceux qu'on ne voulait pas toucher, ceux qu'on ne voulait pas approcher, ceux même que les religieux, parfois, ne voulaient pas spécialement avoir au cœur de la communauté. Et ça, c'est présent dans tous les évangiles et c'est présent dans toute la vie de Jésus. Et on a tout type de choses. Hein. On a bien sûr des gens malades, des gens avec un handicap, mais on a aussi des gens avec des mauvaises réputations. On a Zachée, qui est juste un gars qui est hyper malhonnête. On a toutes sortes de catégories, mais à chaque fois, ce sont les gens qui étaient rejetés, qui étaient à la marge. Et donc, je pense que je ne vais pas trop loin en disant que quand on lit les évangiles, on voit que Jésus avait un cœur particulier pour ces gens-là. Je pense que ce n'est pas tiré par les cheveux. Et donc, ma théorie super simple, c'est de me dire, j'ai rien qui me dit que Jésus il a changé depuis. Donc, j'ai rien qui me dit que le cœur de Jésus a changé depuis. Donc, si c'est toujours Christ qui appelle les gens à rejoindre son Église, j'ai toutes les raisons de penser qu'il appelle toujours ces personnes-là. Et donc, si on veut répondre à la question « qu'est-ce que Dieu appelle aujourd'hui ?», eh bien, il faut se dire « c'est qui ces gens-là aujourd'hui ?» Dans notre catégorie, dans notre époque, même dans notre contexte à Lausanne, c'est qui ces gens-là qu'on ne veut pas voir, avec qui on n'est pas à l'aise, les gens qu'on serait peut-être un petit peu gênés s'ils étaient dans l'Église, etc. Je ne vais pas nommer, parce que je pense que vous avez tous des images, mais je pense que c'est important de voir les gens comme ça. Et du coup, la question, c'est qui sont ces gens et est-ce que je suis prêt à les accueillir ? Et cette question-là, finalement, ça nous ramène à nos projections aussi. On a tous des projections de c'est quoi l'Église ? C'est quoi une belle Église ? C'est quoi l'Église qui me fait rêver ? C'est quoi l'Église où je me sens à l'aise dedans ? Et je pense qu'il y a un peu des fois un piège aussi pour l'Église de vouloir plaire ou des fois calquer sur la société ce qui est beau, ce qui est acceptable. Hein, je pense que des fois, on a envie de dire « Ah bah oui, l'église, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit moderne, peut-être il faut que ce soit cool, il faut que les gens ils aient envie de venir. » Et puis ça, c'est pas mauvais en soi. On a le droit de vouloir faire quelque chose de beau, de joli, de bien fait. Mais je pense qu'il y a un danger, parce qu'il ne faut pas confondre l'église que je projette et que j'imagine et l'église que Christ est en train de construire. Et les gens que Christ, lui, est en train d'appeler à rejoindre sa famille. Et c'est vrai que Jésus, quand il était sur terre, il n'allait pas dans les endroits cool, il n'allait pas dans les beaux palais, il n'allait pas là, il allait là où les gens ils étaient. Et ces gens qui étaient à la marge, il allait les trouver chez eux. Et c'est peut-être hyper anecdotique ce que je vais dire, mais je trouve que pour la réflexion, ça aide. Et vous savez, c'est de se poser cette question. Et si Jésus venait faire une conférence à Lausanne demain, où est-ce qu'il irait ? Est-ce qu'il louerait beau lieu, il ferait payer 15 francs l'entrée, et puis il remplirait ça, et puis ce serait génial ? Ou est-ce qu'il irait à la Riponne sur les marches du Palais de Rumine avec un vieux micro qui ne marche pas ? Voilà. C'est anecdotique, mais vous voyez un peu la réflexion, vous voyez un peu l'idée de se questionner là-dessus. Et de se dire, mais est-ce que finalement ma vision de l'Église, est-ce qu'elle ressemble, est-ce qu'elle colle avec la vision de celui qui fait l'Église, celui qui appelle et qui construit. Et je dis, il y a un danger avec les projections, parce que quand vous projetez une image de l'Église, eh ben en fait, inconsciemment, on projette aussi une image des personnes qu'on estime pouvoir nous rejoindre. Ce n'est pas forcément quelque chose consciemment, mais quand on imagine, eh ben après, peut-être quand même, on va projeter sur qui sont les personnes qu'on peut accueillir ou qu'on aimerait accueillir. Ah, celui-là, bon, ça gêne un peu, il détonne un peu. Alors que celui-là, il est un peu comme nous, donc il va bien. Et l'Église, elle a une grosse responsabilité là-dedans. Parce que quand une Église dit « on va se tourner vers ces gens-là, on va se tourner vers ces gens-ci », ce qu'elle fait quand même, c'est qu'elle dit bah, « par contre, on ne va pas se tourner vers ceux-là ». Alors j'exagère, on ne va jamais fermer la porte de l'Église à quelqu'un. Mais vous voyez quand même un peu l'idée. Quand on décide de dire « ah ben, nous on veut parler à ces gens-là ben, », en fait on dit quand même un peu « on ne va pas parler à ceux-là ». Et donc, il y a une responsabilité, l'Église a une responsabilité. Et j'aimerais tirer un enseignement que j'ai trouvé vraiment très inspirant dans l'histoire de Pierre et Corneille. Alors on va pas lire tout le texte, mais je vous résume un peu le contexte et l'histoire. On est au début de l'Église. L'Église, elle est principalement juive. Elle est composée principalement de personnes issues du judaïsme. Il y a quelques païens qui sont aussi avec eux, mais c'est quand même une Église qui est juive. Et puis, Dieu, il parle à un homme qui était païen, à Corneille. Il lui donne une vision. Et en parallèle, il donne une vision à Pierre. Pierre, c'était en gros le chef ou un des principaux chefs de l'Église à ce moment-là. Et puis il lui montre une nappe qui descend avec des animaux et dit « tue et mange ». Et Pierre est là « oulala, non, 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 surtout pas, tout ça c'est impur ». Et Dieu dit, au verset 15, « ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé ». Et là Pierre y comprend, ok, quand des hommes viennent le chercher pour aller chez Corneille, il se dit « ok, je vais aller chez Corneille ». Il faut savoir qu'à l'époque, c'est interdit pour un juif d'aller dans la maison d'un païen. Donc c'est pas rien ce qu'il fait, mais il comprend qu'il doit y aller. Et puis quand il arrive chez eux, il dit cette parole qui est très très forte. « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Il se rend compte d'un coup que son regard sur les autres, entre guillemets, était faux. Et là, il donne un discours, et ensuite l'Esprit-Saint descend sur toute la famille, sur toute la maisonnée, et là, Pierre comprend qu'il se passe quelque chose. Il comprend qu'en fait, Dieu appelle aussi les païens. Et ce qui est hyper fort dans cette histoire, c'est que Dieu, il ne donne pas à Pierre la vision en mode « Pierre, j'ai une nouvelle idée, nouveau plan, on va viser les païens, action missionnaire, c'est parti. » Il ne fait pas comme ça. Il donne une vision et il montre à Pierre « Je suis déjà en train de travailler, j'ai déjà appelé d'autres gens, je les ai déjà sauvés, Toi, maintenant, ton travail, c'est de les accueillir dans mon Église. Et voyez la différence, c'est-à-dire que ce n'est pas la question « on doit viser qui ?», c'est la question « comment est-ce qu'on fait pour accueillir au mieux ce que Dieu est déjà en train d'appeler maintenant ?» Parce que Dieu, pendant que nous on est ici, il est en action en permanence, il touche des cœurs, il transforme des vies. Et il ne nous attend pas pour faire ça, c'est lui qui agit et après il nous dit « maintenant, accueillez dans ma famille les gens que moi j'ai appelés ». Et donc l'église de Jérusalem, elle s'est trouvée un peu dans ce moment aussi, de se dire, si on avait demandé à l'église de Jérusalem avant la vision de Pierre, c'est quoi votre vision, c'est quoi le plan pour les 10 prochaines années, je pense qu'ils auraient dit, bah, écoute, nous on est une communauté principalement d'origine juive, le plan c'est un peu bah, d'y aller, de grandir, d'aller parler à tous les juifs sur la terre, et puis d'annoncer la bonne nouvelle. Et puis c'est pas faux, et puis il n'y a pas de problème avec cette vision. Mais Dieu, à ce moment-là, a dû agir fortement et puissamment pour que l'Église comprenne qu'elle devait ouvrir ses portes plus largement. Et quand je dis puissamment, je dis, vous avez la vision de Pierre, mais il y a aussi Paul, hein, tout le travail qu'il a fait, la vie qu'il a eue pour passer ce message de dire à l'Église, vous devez ouvrir vos portes aux gens que vous considériez même pas, parce que pour vous, ils n'existaient même pas. Et ça, ça doit aussi nous inspirer et ça pose cette question, est-ce que nous sommes prêts à accueillir ce que Dieu appelle ? Et encore une fois, mon idée, je ne suis pas du tout dans le jugement, mais on sait qu'on a tous déjà des visions en tête. Hein ? On le dit, on ne se le cache pas, on est là peut-être, ah, on aimerait bien plus de familles, on aimerait bien plus de jeunes, on aimerait plus de gens qui aiment les responsabilités et qui s'engagent. Et il n'y a rien de faux là-dedans, il n'y a rien de mal. Mais le truc, c'est que c'est Dieu, c'est Jésus qui appelle, c'est lui qui choisit. Et en fait, peut-être qu'il va envoyer plein de familles et plein de jeunes, mais peut-être qu'il va envoyer des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Peut-être qu'il va envoyer des gens qui sont très différents de ces projections qu'on a. Peut-être qu'on va avoir des gens, je ne sais pas moi, qui sortent de prison, des gens qui ont des addictions, des gens qui parlent peut-être pas notre langue. Tout est possible. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui choisit. Mais la question, c'est est-ce que nous, en tant qu'Église de Villars, on sera prêts à les accueillir ? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec nos projections, parce que ben voilà, on veut pouvoir les accueillir comme il faut. Et j'en viens justement à ce qui sera aussi ma conclusion. Yvan, c'est bien gentil, mais tu nous dis, l'Église, elle est à Christ, c'est lui qui appelle, c'est lui qui bâtit, et puis nous, on fait quoi dans cette histoire ? C'est une bonne question, je suis content que vous la posiez. Eh bien, nous, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on accueille. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Il faut bien vous dire, c'est une immense responsabilité. C'est pas Dieu fait tout et puis nous, il nous a laissé l'accueil. Non, c'est une immense responsabilité. Mettez-vous bien dans la tête. Dieu, il est en train d'agir maintenant. Il est en train de changer des cœurs. Il est en train il y a des gens qui sont en train de se rendre compte qu'ils sont pécheurs. Ils reçoivent le pardon de Dieu. Leur vie, elle est en train d'être transformée. Et après ça, Jésus, il dit, « Et maintenant, tu vas aller dans cette église, tu vas voir, c'est ma famille, ils sont super. » Vous imaginez ? On est le maillon juste après tout ça. Donc c'est une grosse responsabilité. Hein, une fois qu'il passe la porte, ben c'est à nous de jouer, c'est à vous, c'est à moi, c'est à l'Église de pouvoir accueillir toutes ces personnes que Dieu lui-même a appelées. Et oui, on a tous des projections, on a tous des images, des envies de qui passe, et ça peut être juste de prier pour que certaines personnes viennent dans l'Église, mais les gens qui ne sont pas là, on peut les attendre toute notre vie. On peut prier pendant 10 ans que ces gens arrivent, et puis peut-être ils viendront jamais. Par contre, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que ceux qui passent la porte, ceux qui passent vraiment la porte de cette église le dimanche matin, Dieu les a appelés, Dieu les a choisis pour qu'ils viennent ici. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt, peu importe qui Dieu appellera demain, est-ce qu'on est prêt à les accueillir comme il se doit, est-ce qu'on est prêt à leur faire une place, est-ce qu'on est prêt à ce qu'ils se sentent membres de cette grande famille de Christ. Alors je vais finir par une prière très simple, que je prie pour nous et pour notre Église. Seigneur, envoie-nous ceux que tu veux appeler aujourd'hui. Et Seigneur, donne-nous un cœur assez grand et assez humble pour les accueillir comme il se doit. Dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.